Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu 2 heures de médias et de culture au sens large, avec le journal des médias, le journal de la culture évidemment, des conseils de sortie et musique, un jeune humoriste et dans un tout autre genre, Bob Dylan. Et le portrait inattendu évidemment d'Hélène Manarino, ce sera vers 10h15. Notre info média, la conférence de presse que la planète entière attend, Carlos Ghosn en mondiovision depuis Beyrouth. Ce sera à 15h heure française, 14h heure française, 15h heure de Beyrouth. Notre correspondant sur place sera avec nous en duplex, mais également en studio Renaud Revel qui a eu tous les détails de l'organisation par Anne Méo en personne, la grande prêtresse de la communication de crise qui est également sur place. Nos invités, Elisabeth Quin qui présente 28 minutes tous les jours sur Arte, émission qui fête ses 8 ans et dont l'audience ne cesse de progresser à mesure que sa vue baisse, car elle s'est engagée dans un combat contre le glaucome, une maladie de l'œil qui touche plus d'1 million de Français et de Françaises. Elle nous racontera enfin un roman à la limite du pamphlet qui dénonce la dictature du LOL, autrement dit le ricanement permanent des humoristes. Comment débattre avec un clown, se demande Frédéric Becbédé, c'est une bonne question. Je l'interrogerai également sur l'affaire Mazneff, dont il dit qu'il est inexcusable, mais également qu'il reste son ami. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Comme tous les jours, on commence avec Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Les audiences télé, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir ?
Hier, ils ont plébiscité majoritairement une fiction française. C'est donc France 3 qui est en tête, la 3 qui proposait le téléfilm policier inédit La loi de Damien avec Richard Berry et François Berléand. Ce téléfilm qui est issu de la collection La loi 2, un peu comme les meurtres A, a attisé la curiosité de 4 310 000 personnes, 19,1% du public. Très bon score donc pour le mardi soir de la 3. Alors TF1 est deuxième de TF1 qui proposait une nouvelle série américaine, enfin une nouvelle. Il s'agit de Magnum.
Ouais.
La nouvelle
mais le
version.
Retour de Magnum.
Le retour de Magnum.
On en a parlé hier
moustache.
Ici.
Voilà.
Sans Magnum, moustache.
Sans moustache. Pas de Tom Selleck, pas de moustache, mais désormais Jay Hernandez dans le rôle du détective privé. Et alors les deux premiers épisodes de cette nouvelle mouture de Magnum ont rassemblé 4 250 000 téléspectateurs, 19,2% de part d'audience, un score correct.
Ça s'est joué à un dixième de point à un poil près, si j'ose dire.
Un petit cheveu.
Voilà. Mais non, mais non, un poil de
un
moustache.
Poil de moustache.
Ouais, là, là, là.
Pardon.
Il est sur le coup. Troisième alors, Pierre.
Alors, troisième, M6, avec un nouveau numéro de recherche appartement ou maison. L'émission immobilière présentée par Stéphane Plaza, recherche appart ou maison, qui a pu compter sur 2 200 000 fidèles, 10,1% du public. C'est un score en hausse par rapport au précédent inédit de recherche appartement ou maison. Et la quatrième place, elle est pour France 2. La 2 qui proposait un nouveau numéro du magazine Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, présenté par Michel Simès et Adriana Carambeu. Les deux animateurs ont tenté de comprendre comment s'explique scientifiquement l'amour, le vrai, le grand, celui qui fait battre des papillons dans le ventre. Et ce thème a fait battre le cœur de 2 millions de Français, 9,8% du
c'était
public.
C'était un nouveau, je crois que c'était une rediff.
Non, c'était un nouveau.
D'accord, d'accord.
C'était
merci beaucoup.
Et voilà. Du côté des autres chaînes, pas de millions.
Pas de millions. Merci beaucoup Pierre, mais par contre du Pierre demain.
Du Pierre demain.
À demain Pierre.
Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Lise Pressac.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Le journal des médias, c'est avec vous. Vous démarrez par Bing Sport qui va diffuser l'intégralité de l'UEFA Euro 2020.
Alors ça, c'est l'hymne de 2016 signé David Guetta. La prochaine sera signée Martin Garrix, DJ néerlandais. On l'a pas encore. En tout cas, on sait qu'un accord donc a été conclu entre la chaîne Bing et l'Union européenne des associations de football. Les 51 matchs de l'UEFA Euro 2020 seront à suivre en direct sur Bing Sport, dont 28 en exclusivité, les 23 autres étant aussi diffusés par TF1 ou M6. Selon le journal L'Équipe, Bing Sport a déboursé 38 millions d'euros pour obtenir les droits de l'ensemble de l'Euro. L'accord de retransmission couvre également l'exploitation des droits sur Internet avec les résumés de l'ensemble des matchs. Le tournoi se tiendra dans 12 villes de 12 pays européens du 12 juin au 12 juillet 2020. C'est facile à retenir.
Ah, j'adore. C'est la fin des retransmissions, en revanche pour K1, France 2, des transmissions pardon, France 2 arrête sa série policière.
Mais oui. La saison 8, diffusée à partir du 24 janvier, sera donc la dernière. L'arrêt de la série a été confirmé par le comédien principal lui-même, Julien Baumgartner, qui a remplacé Bruno De Brandt l'année dernière, avoue avoir senti le vent tourner. En voyant baisser le nombre d'épisodes par saison, la saison 8 ne comptera que 6 épisodes contre 8 habituellement, quand les saisons 4, 5 et 6 comptaient encore jusqu'à 10 épisodes. L'acteur n'a qu'un seul regret, je ne suis pas sûr que l'on revoie de sitôt un flic en fauteuil roulant à la télé, et c'est dommage, confie-t-il à Télé Loisirs. La série faisait de bonnes audiences, mais France Télé souhaite renouveler son offre de fiction.
Et France Télévisions, on y reste, dont la patronne Delphine Ernotte brigue officiellement un nouveau mandat.
Oui, elle l'a annoncé hier lors de ses vœux aux salariés. Delphine Ernotte est en poste depuis août 2015. Son mandat court jusqu'au mois d'août 2020. Et elle se verrait bien jouer les prolongations jusqu'à fin 2022. Un mandat écourté pour cause de réforme de l'audiovisuel public, invoque France Télévisions. Radio France et France Média Monde, qui regroupent France 24 et RFI, ne fassent partie d'une seule et même holding baptisée France Média.
Elle, c'est sûr, elle est renouvelée. Oui. C'est la série Narcos Mexico qui aura bientôt une saison 2.
Alors vous allez me dire que je suis en retard, que la saison 3 est déjà sortie. Ouais. Mais en fait, il s'agit de Narcos Mexico,
oui,
série qui s'intéresse aux racines de la guerre des cartels de drogue dans les années 80.
Poignarder dans le dos, c'est du boulot. À force, c'est crevant. Personne reste éternellement au sommet. Personne est intouchable.
Alors ça aurait dû être la quatrième saison de la série originale de Netflix Narcos tout court, qui s'est finalement transformée en série parallèle. On se concentre sur le trafic de drogue au Mexique et non pas sur celui de Colombie comme dans la série originale. Narcos Mexico saison 2 sera diffusée sur Netflix à partir du 13 février.
Et puis Lise, pour finir, vous nous parlez d'un documentaire diffusé ce soir à 20h55, enfin on va dire 21h, oui, sur RMC Story en prime time. Harcèlement sexuel, la fin d'un tabou.
En Europe, toutes les 5 secondes, 10 femmes sont victimes de harcèlement sexuel. C'est avec ce chiffre choc que commence le documentaire de Laura Montabel. La réalisatrice nous emmène notamment dans le métro parisien pour suivre les brigades chargées de protéger les victimes et d'arrêter leurs agresseurs. On découvre ainsi le travail de la BLAST, c'est la brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports, et du GICS, GICS, le groupe d'intervention à caractère sexuel dans les transports en commun. Leur terrain de chasse, la ligne 13 du métro parisien, la cinquième ligne la plus fréquentée au monde. Sur les murs de leurs locaux, les visages de centaines d'agresseurs recherchés.
On a des gens assez âgés. On a des très jeunes, des personnes SDF, des migrants, des collégiens, des retraités, des fonctionnaires. En tout cas, ils ont tous le même point commun, c'est qu'ils vivent dans une misère sexuelle. Bon, quoique même pas forcément tous.
C'est rare, mais certains agresseurs n'ont pas le physique de l'emploi. Jérôme garde un souvenir précis d'un homme à la vie pourtant bien rangé.
Pareil, un mémoire d'un jeune cadre dynamique qui avait 25 ans, qui allait travailler tous les jours à la Défense, je parle de ça parce que
informaticien,
voilà, informaticien, beau garçon, des filles, voilà, il vivait très bien sa vie, un appartement dans le Marais. Tous les jours, il prenait les transports, il se frottait, il s'éjaculait sur son pantalon, il prévoyait toujours un petit change, il arrivait au boulot, il prenait sa douche, il changeait. Et ça, il nous le dit en audition.
Voilà, le harceleur sexuel n'a pas de profil type. La victime, elle, est une femme dans 93% des cas. Mais un homme témoigne également dans le documentaire. Des victimes qui parlent à visage découvert. Elles racontent leur agression, voire la reconstituent devant la caméra. Écoutez la réalisatrice Laura Montabel au micro de Louise Bernard.
Tous, à un moment donné, ils ont voulu arrêter le projet. Tous, à un moment donné, ils ont voulu être floutés. Tous, à un moment donné, ils ont changé d'avis 3 fois. Enfin, il faut suivre aussi ces personnes qui ont des grandes fragilités. Et donc, oui, elles osent parler. Oui, elles veulent que les choses changent. Mais pour elles, c'est aussi un grand exercice qui est parfois très difficile que de raconter son histoire comme ça devant beaucoup de personnes.
Un documentaire qui rappelle l'importance de porter plainte en cas de harcèlement ou d'agression sexuelle. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à le faire depuis 2 ans, suite à l'affaire Weinstein et au mouvement MeToo. Mais cela reste faible, seulement 10% des victimes le font, nous dit le documentaire. Or, sans plainte, pas d'interpellation possible, même quand l'agresseur est identifié. Harcèlement sexuel, la fin d'un tabou, c'est ce soir à 20h55 sur RMC Story.
Merci beaucoup, Lise Pressac, à demain.
À demain.
À suivre dans l'infomédia du jour, l'affaire Carlos Ghosn. On s'intéressera notamment avec nos invités à la façon dont s'est organisée cette conférence de presse que va donner Carlos Ghosn cet après-midi. Et on en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Il va enfin parler, s'exprimer pour contre-attaquer, donner sa version des faits. Et pourquoi pas quelques détails sur sa rocambolesque évasion du Japon au nez et à la barbe des autorités nippones. Carlos Ghosn, c'est de lui dont il s'agit, va donc tenir une conférence de presse attendue par le monde entier. Il sera 15h à Beyrouth, 14h à Paris, 20h à Tokyo et 8h à New York. Donc toute la planète sera réveillée. C'est notre info média du jour. On va vous raconter les coulisses et de l'organisation de cette conférence hors norme. Grâce à vous, Renaud Revel, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste média à Paris Match et vous avez toutes les infos sur la genèse de ce grand moment de communication attendu. En ligne de Beyrouth, j'accueille également Nicolas Feldman. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 et vous allez évidemment suivre cette conférence de presse. D'abord, première question à Renaud Revel. Qui a eu l'idée de cette conférence et comment a-t-elle été organisée?
C'est le clan Ghosn, hein. C'est Carole et Carlos Ghosn.
Carole, son épouse.
Et Anne Méo, bien sûr, grande prêtresse de la com. C'est elle qui gère l'image et la communication du couple Ghosn depuis un an, c'est-à-dire depuis le début de la crise. Et c'est elle qui est à Beyrouth depuis maintenant une petite semaine avec une équipe dédiée. Ils ont répété et répété cette conférence de presse. C'est elle qui fait le casting des journalistes et qui a organisé de manière extrêmement millimétrée et très autoritaire cette conférence de presse qui devrait durer un peu plus d'une heure.
Avant qu'on rentre dans le détail de la conférence, d'abord un mot, une question sur Anne Méo. Qui est celle que l'on présente souvent ici comme la grande prêtresse de la communication?
Grande dame qui a créé Machette en 1988. C'est sans doute le plus grand portefeuille de clients de la place, une centaine d'entreprises, la moitié du CAC 40, et des grands patrons comme François Pinault, Martin Bouygues, Arnaud Lagardère, et bien d'autres, des États comme la Côte d'Ivoire. Elle a géré les affaires Kerviel, elle a géré en coulisses également la campagne mouvementée, rappelons-nous, de François Fillon, encore une fois, est totalement incontrôlable sur le marché de la com en France.
Et spécialiste de la communication de crise.
Bien sûr.
Anne Méo et Carlos Ghosn se connaissent bien?
Du tout. C'est très drôle parce que, c'est trop drôle, anecdotique, le contrat qui lie Carlos Ghosn à Anne Méo remonte à un an au début de la crise, mais ils ne se sont jamais vus. Ouais. Ils ont correspondu par écran interposé, par Skype, pendant un an, et elle a rencontré Carlos Ghosn physiquement il y a 3 jours. Et elle m'a raconté d'ailleurs au téléphone, c'était un grand moment d'émotion partagée, parce qu'ils ont échangé pendant un an, durant cette crise, mais elle ne le connaissait pas physiquement.
Alors comment ont été sélectionnés les journalistes? J'imagine déjà que le tout Paris médiatique est à Beyrouth, ou est-ce que je me trompe?
Toutes les chaînes françaises, toutes les chaînes d'info, bien sûr. Depuis 3 jours. Ça a été compliqué parce que, dans un premier temps, Carlos Ghosn ne souhaitait pas de japonais. Mmh. Et il a fait une fixation là-dessus. Il estime avoir été très maltraité par les japonais depuis un an. Il a fini par y renoncer, donc il y aura quelques médias japonais. Mais jusqu'à hier encore, les discussions étaient encore sur la table. Quel journaliste? Il y a le monde entier. Hein. Beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais, des Brésiliens, puisqu'il est aussi brésilien, des Libanais, bien sûr, et c'est normal, et toutes les chaînes françaises, peu ou prou.
Alors, ça sera dans une salle du Press Club de Beyrouth. C'est une grande. Une petite salle.
Petite salle, assez confinée, pas très pratique. Il avait été question au début de le faire au domicile du couple Ghosn, mais ça a été abandonné très vite pour des raisons de sécurité d'abord. Ouais. Donc ils ont choisi cette salle qui est petite, mais effectivement, c'est là que se déroulera la conférence de presse à 14h, heure libanaise.
Est-ce qu'on verra, il sera 15h, heure libanaise, 14h, heure française.
Oui.
On se trompe souvent. Est-ce que la conférence de presse sera visible sur les chaînes d'info françaises? Où est-ce qu'on pourra la voir?
Toutes les chaînes d'info françaises vont le diffuser en direct. BFM TV a fait un truc assez original. Il y aura aussi un Facebook Live et sur Twitter en direct. Mais tout ça sera diffusé en direct sur BFM TV, LCI, CNews et France Info.
Nicolas Feldman, vous faites donc partie des heureux élus. Vous avez déjà votre sésame en main. Comment ça se passe concrètement?
On a tout simplement rendez-vous aujourd'hui à 13h, une heure avant la conférence de presse. On est 120 à 150 journalistes à aller écouter enfin ce que Carlos Ghosn a à dire, parce que on est tous là depuis une semaine et on attend enfin, parce qu'on cherche ses proches, on écoute ce qu'ils ont à dire, mais on attend que Carlos Ghosn puisse enfin s'exprimer.
Alors la question des journalistes japonais, vous en avez vu, ils y sont, ils y seront pas? Comment ça se passe avec les japonais, vos confrères?
Ça on les a vus, les journalistes japonais, hein. ils sont devant la maison de Carlos Ghosn. J'ai d'ailleurs fait un sujet qui est passé à l'antenne. Ils étaient une vingtaine sur ce trottoir en face de cette maison et il y avait même un journaliste qui m'explique, un journaliste français qui travaille avec ces journalistes japonais, qui m'explique que c'est une technique très typique des japonais de planquer devant la maison. Ils sont prêts à déployer des moyens considérables pour rester et essayer de voir, d'avoir ne serait-ce qu'une petite image de Carlos Ghosn qu'on a, je vous rappelle, toujours pas vu hein, depuis le 31, depuis son arrivée le 30 au Liban.
Bien sûr, on a vu la photo qui est à la une du Parisien, on a vu quand même le Carlos Ghosn avec une coupe de champagne, on a quand même eu deux photos. Ils sont une vingtaine devant la maison de Carlos Ghosn dans son quartier à Achrafieh, mais ils ne seront pas une vingtaine à la conf de presse, il devrait y en avoir combien selon vos infos?
Alors ça, on ne sait pas exactement. Justement, on parlait de l'agence Image 7, je leur ai demandé, mais là, c'est encore des informations auxquelles on n'a pas accès, parce qu'on m'expliquait que le fichier était énorme et qu'ils ne pouvaient pas faire le décompte du nombre de journalistes japonais.
D'accord. Renaud Revel, comment concrètement va se dérouler la conférence?
De manière très classique. Hein. Semble-t-il, il sera debout sur une tribune. Il répondra. D'abord, lui et ses avocats ont préparé une longue déclaration liminaire où, en défense, il va revenir sur l'affaire elle-même. Ouais. Et ensuite, ça sera le jeu classique des questions et des réponses.
Vous avez les mêmes infos, Nicolas Feldman. Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Bah oui, exactement, ça va être en deux temps. Il y a d'abord cette question sur le fond, avec il devrait parler en anglais et revenir document à l'appui sur toutes les accusations portées par la justice japonaise. Et puis, dans un second temps, il y aurait ces questions des journalistes. Et sur la forme, ça c'est très important, c'est ses proches qui nous le disent, il ne devrait pas répondre sur les détails de son évasion, parce que ses proches nous le disent, il veut aller vers de l'avant et voilà, ne plus parler de cette fuite du Japon.
Ah ben, ne plus parler, il n'en a pas parlé, donc il serait bien qu'il en parle un tout petit peu. Est-ce qu'un coup de théâtre est possible? Est-ce que s'il est acculé et qu'on lui pose question sur question sur question, est-ce qu'il est possible qu'il donne des détails?
Bah écoutez, ça, c'est encore difficile de vous le dire, on verra cet après-midi, on essaiera bien sûr.
Est-ce que vous avez reçu des consignes, Nicolas Feldman? Est-ce qu'il y a des questions interdites?
Non, aucune consigne. Du côté des consignes, je peux vous dire qu'en tout cas, ses proches ont reçu des consignes. Ça, on l'a senti toute la semaine à Beyrouth, de pas parler, que ce soit ses associés, que ce soit ses avocats, que ce soit ses anciens amis. On a senti un peu une espèce d'omerta autour de ce personnage pour justement le laisser lui-même face à la presse, face à cette histoire, pouvoir se défendre de lui-même. Mais nous, les journalistes, on a reçu aucune consigne pour le moment, non.
Quel message Carlos Ghosn va-t-il faire passer? De quelle manière va-t-il contre-attaquer? On vous raconte ça. Je vais arriver à le dire. Heureusement que je ne suis pas en conférence de presse en Monde du Vision. On vous raconte ça tout de suite dans Culture Média.
Oui, Carlos Ghosn va tenir une conférence de presse attendue par le monde entier cet après-midi à 14h. Comment s'est organisée cette future prise de parole? On continue à en parler avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, on parle ce matin de l'événement médiatique du jour, la conférence de presse très attendue de Carlos Ghosn. Comment et par qui a-t-elle été organisée? On en parle avec vos invités, Philippe, Renaud Revel du JDD et Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 au Liban.
Renaud Revel, il ne fait strictement aucun doute que Carlos Ghosn s'est entraîné pour préparer l'exercice d'aujourd'hui. C'est un grand patron, chaque fois qu'il a une communication à faire, il y a un training. Savez-vous comment il a préparé cet événement, cette conférence en Mondiovision?
Bah, à la fois avec ses avocats, qui sont à Beyrouth, bien sûr, et surtout l'équipe d'Imachette. On sait le métier hein, depuis toujours.
Imachette, la société d'Admeo dont nous parlons,
absolument,
et qui a organisé cette conférence.
Ils font du training de grands patrons depuis toujours, hein, depuis 30 ans. Donc ils ont l'habitude de ça. Et Admeo est une grande spécialiste. Donc ça s'est fait avec Admeo d'un côté, patron d'Imachette, et les avocats de Carlos Ghosn.
Quelles infos vous avez à ce sujet, Nicolas Feldman? Savez-vous comment ça a été préparé, ce ou ces trainings?
Oui, bah exactement. C'était même peut-être avant son arrivée au Liban que cette conf de presse est préparée. Il y avait une vingtaine d'avocats, de conseillers qui travaillent là-dessus un peu de tous les continents. Et donc, bah voilà, pour être fin prêt cet après-midi.
Attendez, c'est énorme l'information que vous nous donnez. Cette conférence avait été préparée avant même son arrivée au Liban. Donc vous sous-entendez qu'Image 7...
Qu'on révélait ce matin, c'est une information que révélait ce matin Alain Racco dans le journal de 8h sur, en effet, que cette conférence de presse était préparée en amont, peut-être même avant son arrivée au Liban.
Autrement dit, Cadmeo était au courant de l'évasion.
Ah non, ça je ne sais pas que ici...
Ah bah si elle a été préparée avant, si la conférence de presse a été préparée avant l'évasion, c'est qu'on est au courant avant l'évasion, Nicolas Feldman.
Non, mais écoutez, non, là je reprends simplement les informations qui ont été données ce matin, je ne peux pas vous garantir que MH7 était au courant, non.
Renaud Revel, après la conférence de presse, la communication de Carlos Ghosn ne va pas s'arrêter là, elle va se poursuivre, me dites-vous, avec des entretiens dans différents médias français. Quel détail avez-vous?
Oui, il y a un plan média très, très, très précis qui a été négocié avec différents médias français. C'est le cas de TF1 d'ailleurs. D'abord, pour le 20h, hein, qui aura un entretien exclusif par ailleurs de Carlos Ghosn. C'est le cas d'Anne-Elisabeth Lemoine pour l'émission C'est à vous de France 5, qui aura également effectivement du Carlos Ghosn dans son émission, sur le plateau.
Attendez. Pardonnez-moi, on me parlait en même temps dans le casque. Pardonnez-moi, Anne-Elisabeth Lemoine va avoir un entretien exclusif avec Carlos Ghosn. Carlos Ghosn va aller à Paris ou Anne-Elisabeth Lemoine va aller à Beyrouth?
Non, à Beyrouth, bien sûr. Et ce n'est pas la seule. France 24 également sera bien traité. Il y a quelques grands médias américains, dont le Wall Street Journal sans doute, ou le Financial Times à Londres, ouais, qui devraient hériter aussi d'un entretien. Et puis un magazine en France, un seul magazine, Paris Match. Effectivement.
Alors, il faut dire que c'est Carlos Ghosn et Anne Meo via Image 7 qui ont choisi C'est par exemple, j'imagine que c'est eux qui ont choisi l'émission C'est à vous.
Qui ont choisi sur des critères très divers, notamment dans le cadre des bonnes relations qu'entretiennent certains médias avec Carlos Ghosn depuis le début de l'affaire. C'est le cas notamment de BFM TV. Ouais. Marc-Olivier Fogiel, à la tête de BFM TV aujourd'hui, est le premier à l'époque sur RTL à avoir eu la première interview de Carole Ghosn, par exemple. Et TF1, le groupe TF1, LCI TF1, est le premier à avoir, par l'entremise de François-Xavier Ménage, la première interview de Carlos Ghosn en mai 2019. Donc il y a des relations privilégiées avec les uns et les autres.
Et pour ce qui est le cas de l'Access Prime Time, puisque c'est le cas de l'émission C'est à vous d'Anne-Elisabeth Lemoine, pourquoi elle plutôt que Quotidien présenté par Yann Barthès, que j'imagine que tout le monde a fait la même demande?
Écoutez, je pense pour une raison toute simple, c'est que je me souviens récemment que Anne Méo a été invitée de Anne-Elisabeth Lemoine il y a trois semaines à moi, une très bonne émission au Bachas d'ailleurs, et je pense que cette émission lui laissait un bon souvenir. Et je pense que les relations entre Anne Méo et Anne-Elisabeth Lemoine sont très bonnes. Et du coup, ça s'est fait, je crois, très naturellement. J'y ajoute une dernière chose, oui. Il y a une radio quand même dans ce panel qui est France Inter. C'est Léa Salamé qui est à Beyrouth depuis quelques jours qui aura l'entretien.
Et Léa Salamé, si je me souviens bien, qui est libanaise, en tout cas son papa était ministre au Liban.
Absolument.
Vous avez les mêmes informations, Nicolas Feldman?
Oui, c'est ça. Ici, c'est un peu la course au one-to-one, comme on dit, à cette interview, pour essayer de savoir qui pourra, après cette conférence de presse, avoir Carlos Ghosn. Alors moi, je vous avoue que je ne sais pas encore avec quel média Carlos Ghosn pourra s'entretenir.
Vous avez fait votre demande, évidemment, j'imagine.
Eh ben oui, on essaye entre Paris, entre ici, on essaye un petit peu de voir avec les responsables d'Image 7 qui sont ici, qui organisent un peu tout. Mais vous imaginez, il y a beaucoup de demandes.
Il y a beaucoup de demandes, mais est-ce que ce sont des exclus, par exemple? Parce que quand on écoute Renaud Revel, on découvre qu'il y a une télévision, un 20h, un Access, un magazine, une radio.
Ouais, bah ça, je vous avoue que j'ai pas vraiment accès à ces informations-là. Je sais qu'on demande et qu'il y a énormément de demandes et que c'est compliqué d'avoir justement accès à cette interview.
Quels échos rencontre cette conférence de presse sur place au Liban, à Beyrouth? Nicolas Feldman.
Eh ben, c'est un petit peu particulier. Vous imaginez bien que dans ses proches, lui vient du quartier d'Achrafieh, un quartier assez huppé de la capitale. Donc oui, forcément, ça fait une semaine qu'on attend cette conférence de presse, qu'enfin il puisse livrer sa vérité. On reprend beaucoup cet argument d'un Carlos Ghosn victime d'un complot de Nissan, de la justice japonaise. Donc évidemment, on attend cette conférence de presse. Et puis après, faut aussi rappeler qu'on est au Liban et que le Liban traverse en ce moment un moment de contestation contre la corruption, contre la classe politique. Donc, y a aussi beaucoup d'indifférence, tout simplement, hein, parce que Carlos Ghosn ne concerne qu'une partie de la société, parce que l'autre, tout simplement, est plus engagé, on va dire, sur des questions du quotidien.
Vous voulez dire que les journaux en parlent, mais ça ne fait pas la une des journaux libanais en ce moment?
Exactement. Ouais.
Renaud Revel, il se dit que Carlos Ghosn est très énervé en ce moment à cause de l'action de la justice japonaise qui a lancé un mandat d'arrêt contre Carole, son épouse.
Son entourage me disait hier qu'il y voit un mauvais coup parce que l'inculpation, en tout cas cette décision de justice a été rendue hier mardi, la veille de la conférence de presse. Il y voit une concomitance humiliante. Ouais. Autre part, comme le disait votre correspondant sur place, il a raison, il se plaint d'être pourchassé, traqué par la presse japonaise depuis plusieurs jours. L'entourage, il le vit extrêmement mal. Tout ça additionné...
Pardonnez-moi, c'est le contraire qui aurait été étonnant.
Bien sûr, mais tout ça additionné fait qu'effectivement, le clan Ghosn estime que les Japonais le traitent extrêmement mal, toujours.
Merci beaucoup, Renaud Revel. On va évidemment suivre cette conférence de presse. Vous êtes journaliste média à Paris Match. Merci pour ces coulisses de la conf. Ça aura lieu à 14h, heure de Paris. Vous y serez évidemment, Nicolas Feldman. Pardon, vous êtes en direct de Beyrouth. Il sera 15h pour vous, envoyé spécial d'Europe 1. Merci d'avoir été, Nicolas, avec nous en direct.
Elle présente l'émission 28 minutes du lundi au vendredi sur Arte. C'est Elisabeth Quin qui est notre prochaine invitée et on l'accueille dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est ravi d'accueillir Elisabeth Quin.
Bonjour Elisabeth Quin.
Bonjour Philippe Bondel.
Vous présentez 28 minutes sur Arte, émission qui fête cette semaine ses 8 ans. Vous avez démarré en janvier 2012, c'est du lundi au vendredi pour qu'il ne le saurait pas, à 20h05 et le samedi dans une version présentée par Renaud Dely. Les audiences ne cessent de monter, c'est assez rare pour être signalé, assez joyeux, des pics à 1 million. Pour les 65 millions qui ne vous ont pas vu hier, 28 minutes, c'est un invité du monde culturel ou de la culture et un débat d'actu chaque année, chaque saison. Les émissions reviennent avec des nouveautés. Vous, c'est très simple, aucune nouveauté. cette saison.
Juste à la marge.
Voilà.
Pourquoi voulez-vous qu'on introduise des nouveautés?
J'allais vous demander ça.
Tous les autres ailleurs introduisent eux-mêmes leurs nouveautés, c'est-à-dire un tout petit peu plus peut-être de médiocrité ou de... Voilà.
Vous savez très bien l'adage qui est peut-être imbécile des gens de la télévision. Si on ne change pas, on meurt à la manière. Et l'exemple qu'on
comme
a toujours, c'est comme le vélo.
Comme le vélo.
Si on pédale pas, on tombe. Non.
Écoutez, nous, nos modifications. Alors, dans Renault Daily, bien sûr, c'est depuis 2018 le samedi. Ce sera vraisemblablement aussi à partir de cet été, tous les samedis. Donc voilà la modification de l'année.
D'accord. L'audience est en hausse en 2019 par rapport à 2018. Oui. L'audience du magazine a continué de progresser au quatrième trimestre 2019. Jamais vous avez fait aussi bien. 3,2% de part d'audience et la moyenne, 728 000 téléspectateurs. Record historique. C'est ça qui me frappe vraiment dans cette émission. C'était le 23 novembre 2018. Le thème, c'était sur les sentinelles après les attentats. Donc, ce n'est pas le sujet le plus joyeux que la Terre ait porté.
Non, mais vous savez bien qu'on peut tous les soirs proposer des débats avec une vraie pluralité d'opinions qui ne sont pas indexés à des sujets joyeux. Oui. Les sujets joyeux, il n'y en a pas. Par contre, il y a un ton qui est le ton de l'émission et qui est un ton enjoué, spirituel. Voilà, je veux dire, le sérieux ou voire le tragique de ce que nous vivons et de ce que nous allons tous vivre collectivement de plus en plus n'empêche pas d'être spirituel et enjoué. Au contraire, humour, politesse du désespoir, enfin vous connaissez ça.
Vous n'avez pas à me convaincre, je suis convaincu.
Vous êtes convaincu d'avance.
Deuxième meilleure audience historique, c'était le 9 décembre dernier. Le thème, c'était les algorithmes. Voilà, on va faire du monde avec ça. Et le deuxième, là c'est différent, il y a un kilomètre sentimental. Les élections présidentielles en Algérie, mais quand même 925 000 personne devant l'émission, on est ravis pour vous.
Et hier soir, l'émission a eu un très 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 joli succès.
Ah bon,
et
c'est quoi les scores?
3,2, je sais pas comment on dit.
Ouais, 3,2
points de
part de marché ou part d'audience.
PDM, et nous recevions un immense artiste. Et je vous le dis, parce
Christian
que vous avez, votre émission, c'est une émission consacrée à la culture aussi.
Exactement.
Christian Boltanski, qui expose une œuvre exposition, une sorte d'œuvre immersive au Centre Pompidou en ce moment, et qui est un type absolument incroyable.
Alors, Boltanski,
obsédé par la mort et par la vie.
Et par sa propre mort et sa propre vie, parce qu'il a vendu sa propre vie, ce qu'il racontait hier chez vous. Il n'est pas connu du grand public, mais il est très connu, évidemment, dans le milieu de l'art contemporain. Et alors, vraiment, vous avez su l'accueillir avec les mots qu'il faut.
Bonsoir Christian Boltanski, quel bonheur de vous voir si élégant dans votre costume de croque-mort japonais. On est heureux de vous accueillir dans 28 minutes à l'occasion de cette, surtout pas rétrospective, cette déambulation immersive au Centre Pompidou que vous avez conçu et qui s'appelle « Faire son temps ». Pourquoi vous n'aimez pas le mot de rétrospective?
Parce qu'en fait il s'agit d'une seule œuvre. Je dis souvent comme ça que une exposition telle que j'ai pu la faire. C'est
oui,
un
oui
peu
non, je ne voulais pas l'interview, je voulais juste la présentation.
Vous voulez dire, le croque-mort.
Oui, le costume de croque-mort japonais, je n'ai pas écouté l'extrait ce matin, il durait une heure.
Le vêtement de fossoyeur.
Mais ouais, la tête qu'il a faite quand vous lui avez dit ça.
Mais non, il a jubilé parce qu'il a l'air d'un Bouddha joyeux, exultant, et effectivement, il est toujours vêtu en noir, avec comme ça, une espèce d'allure de fossoyeur. Donc j'aime cet être qui est une sorte d'incarnation de tous les paradoxes qui nous intéressent.
Voilà. Hier, il y avait un débat de très haute tenue sur le terrorisme. À l'occasion des 50 ans de la tuerie de Charlie Hebdo, il y avait trois spécialistes. 5 ans, pardon, excusez-moi, j'ai écrit 5 ans, je ne sais pas pourquoi. Trois spécialistes, il y avait Gilles Kepel, l'avocat Thibault de Montbrial et la spécialiste police-justice, journal Le Monde.
Je m'excuse.
Exactement, prix Albert Londres 2018. Quelle différence avec une émission comme C'est dans l'air sur France 5 ou Yves Calvi sur Canal Plus?
Mais j'en sais rien, je ne regarde pas la télé. Arrêtez de me demander ça depuis 8 ans, Philippe Vandel.
Non, je ne vous le demande pas.
Mais si, vous me demandez toujours quelle différence.
Pour dire les choses.
Et je vous réponds, je ne sais pas.
Alors,
vous imaginez bien qu'on ne va pas s'amuser tous les matins. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens que vous me citez, de France 5 et d'autres chaînes, Anne-Elisabeth Lemoine, Calvi, etc. Mais je ne regarde pas la télé, je n'ai pas la télévision. J'ai un petit écran dans ma cuisine, grand comme un timbre poste d'antan, comme on disait. Bon, donc, nous invitons les gens les plus habilités à analyser, à essayer de nous aider à rendre lisibles les sujets de société qui nous angoissent tous ou qui nous interpellent tous. Je ne sais pas, on ne compare pas, on ne fait pas des plateaux en fonction de l'assiette du voisin.
Vous êtes en prise avec l'actualité, mais vous l'avez dit, des gens qui analysent, par exemple au moment des grèves des cheminots, chez vous, il n'y a pas de cheminots grévistes. Au moment des gilets jaunes, chez vous, il n'y a pas de gilets jaunes.
Oui,
ça, c'est un choix. C'est un choix éditorial.
Oui, c'est un choix éditorial. C'est le choix de prendre un tout petit peu de recul et de s'autoriser à faire intervenir des sociologues, des historiens des révoltes, des historiens des manifestations, des spécialistes de la problématique territoriale française, enfin des gens, des économistes évidemment, à foison, et pas être dans le à chaud et le brûlant. L'échec chaînes info le font très bien ou très mal, ça dépend du point de vue qu'on porte sur ce qu'elles font. Mais en tout cas, c'est ce qu'elles font, c'est leur métier. Ça n'est pas le même métier.
Et ce choix de n'avoir que des sachants, comme on dit, c'est un mot qui est arrivé et qui fait irruption au moment des gilets jaunes. Les sachants, ça veut dire des gens qui savent. Ça veut dire, pour dire les choses clairement, des bac plus 4, des bac plus 6. Oui. Et jamais des gens sur le terrain. Et il y avait certains sociologues qui disaient, dans les émissions de télé, vous n'étiez pas cités, parfois vous étiez cités, mais on n'a que des gens qui parlent de nous, disaient les gens sur les ronds-points, mais pas nous.
Oui, c'est vrai, ils ont raison. C'est une analyse systémique qu'ils faisaient et qui rencontrait leurs préoccupations ou leur hantise de se sentir coupé des élites, comme ils disent, et de se sentir méprisé par ces élites-là. Mais c'est aussi intéressant, si on va un peu plus loin, d'analyser ce sentiment. Et si on l'analyse, ça peut être avec des sociologues. Mais vous savez, les sociologues, ils ne sont pas enfermés dans un bureau au Collège de France ou dans une fac, les sociologues. Quand ce sont des bons sociologues, c'est eux qu'on invite. Ce sont des gens qui vont sur le terrain. Et si on reparle d'Élise Vincent, qu'on a invité hier pour parler du djihadisme et de comment fait-on avec un nouveau djihadisme qui a muté, c'était le thème d'hier soir. Élise Vincent, qui a eu le prix Albert Londres, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a été maintes et maintes fois sur le terrain, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc les sachants ne sont pas toujours coupés. Ça serait trop facile, cette dualité entre les gens qui savent, qui sont coupés des réalités, et les gens qui sont sur le terrain. Mais les gens qui sont sur le terrain, ce sont des sachants aussi. Les gilets jaunes connaissent mieux que personne leur expérience, donc ils sont des sachants de leur propre vie, à leur façon. C'est pas aussi simple. Je déteste la dualité binaire comme ça.
Pareillement. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous, Elisabeth Quin.
28 minutes, l'émission d'Arte fête ses 8 ans et on continue à en parler dans un instant avec sa présentatrice Elisabeth Quin, qui est notre invitée sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
28 minutes, c'est sur Arte du lundi au vendredi à 20h05. L'émission fête ses 8 ans et on en parle avec sa présentatrice Elisabeth Quin, qui est notre invitée ce matin dans Culture Média, Philippe.
Alors, Elisabeth Quin, on l'a bien compris, vous n'aimez pas parler de chiffres, sauf dans un cas, 1 million. C'est pas votre audience, 1 million de personnes
bientôt,
en France, c'est le nombre de victimes d'une maladie dont on ne parle quasiment jamais, maladie pour laquelle nous avons baissé la lumière dans ce studio, c'est le glaucome. Première cause de cécité, je l'ai appris en préparant cet entretien dans les pays développés, maladie dont vous êtes victime et dont vous avez voulu parler dans un livre, La nuit se lève. Pourquoi ce récit, vous qui êtes habituellement si discrète sur votre vie privée et vie personnelle?
C'est vrai, surtout en étant sous l'éclairage quotidien à la télévision où l'on se cache, vous le savez bien.
Oui.
Tout simplement à cause du chiffre que vous venez d'évoquer. Entre 500 000 et 1 million de Français sont concernés par un glaucome, qu'il soit simple ou double, autrement dit qu'il concerne un œil ou les deux yeux. Le glaucome, c'est une atteinte du nerf optique qui peut devenir irréversible si c'est dépisté trop tard, si c'est mal soigné ou si la personne refuse de se soigner, ce qui arrive. Il y a des gens qui ne veulent pas se soigner tellement la hantise et tellement le rapport à l'œil chez eux est fantasmatique et insoutenable.
Et je vous pose la question.
Moi, j'ai cette maladie, j'ai voulu témoigner de ce que ça représente d'entendre un diagnostic qui, au premier chef, vous effondre et puis ensuite qui vous force à réagir.
Je vous posais la question que tout le monde se pose en entendant votre phrase précédente. Comment vont vos yeux?
L'œil droit, fort bien. Il peut vous faire des clins d'œil. L'œil gauche est un tout petit peu moins stabilisé. C'est une petite source d'inquiétude, mais nous gardons à l'œil cet œil.
400 000 à 500 000 personnes ignorent en France qu'elles sont atteintes de cette maladie, mais il n'y a pas de traitement qui fasse reculer la maladie.
Non, le traitement, les traitements des collyres, de la chirurgie, des lasers, il y a toute une variété de traitements possibles. Essayent d'arrêter, en général réussissent à empêcher l'évolution de la maladie, mais on ne peut pas revenir en arrière. C'est vertigineux, c'est-à-dire que ce que vous avez perdu en vision, en champ visuel, en acuité visuelle, vous ne le récupérerez jamais.
Voilà. Mais c'était une surprise pour vous?
Pour moi,
parce que c'est héréditaire, et votre papa en souffre.
Oui, mais je ne le savais pas parce que mon père n'avait plus sa tête, ma mère plus tout à fait non plus, et donc j'ai découvert après la mort de mon père qu'il avait cette maladie et que donc il me l'avait transmise. Le problème n'est pas de se demander pourquoi je ne l'ai pas su plus tôt. Une fois qu'on vous a diagnostiqué une maladie, il faut développer en soi quelque chose qui est très compliqué, qui est à la fois de la combativité et en même temps de la souplesse. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre la maladie, mais lutter contre une maladie, ça mobilise tellement vos forces que ça vous met dans un état de nerf. Or, la pression nerveuse, c'est très mauvais. Donc il faut trouver en soi une espèce de double mouvement, quasi contradictoire, tonicité, combativité, et en même temps, laisser aller, accepter souplesse spirituelle, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un exercice super compliqué, mais donc je m'y astreins.
Et quand vous parlez de pression, c'est au sens littéral, parce que c'est la pression sur le globe
oculaire.
C'est
la pression sur le nerf optique.
C'est pas façon de parler.
Et la pression sur le nerf optique détruit ce nerf optique. Voilà. C'est ça la maladie.
Quelles ont été les réactions à la publication de ce livre ? Vous avez reçu des courriers, j'imagine ?
J'ai reçu des courriers absolument bouleversants, déchirants ou hilarants de gens qui, d'abord, beaucoup de gens qui m'ont écrit ou qui venaient me voir quand je signais le petit livre dans les librairies en province ou à Paris, des gens qui me disait, écoutez, je m'y retrouve, donc merci, parce que je me sens moins seule. Merci d'en parler, merci de faire en sorte que le mot glaucome soit prononcé, que les gens se rendent compte qu'il faut aller se faire dépister, qu'il faut aller chez un ophtalmo, qu'il faut se faire prendre la pression, que c'est pas juste chez l'opticien, le monsieur qui vend des lunettes, c'est chez l'ophtalmo. Et puis j'ai reçu des gens qui m'ont proposé des marabouts, des guérisseurs.
Pardon,
des gens qui... Non mais des gens extraordinaires qui me disaient, écoutez, moi je suis guérisseur, je vais vous guérir, mais en échange, je vous demande un truc, écrivez ma vie, parce que ma vie est passionnante. Donc nous faisons un pacte. Non mais je recevais des mouchoirs trempés dans des sources miraculeuses avec un petit mot PS. Il y a eu des nitrites et des sulfites dans la source, donc elle est polluée. Mais mettez-la vous quand même, mettez-vous quand même le mouchoir sur les yeux, ça va vous guérir. Non, des trucs fabuleux. Donc il y a eu une communauté.
Et même dans le livre, vous manquez pas d'humour, Elisabeth Quint, vous relevez l'ironie qu'on trouve dans les expressions banales de la vie, comme quand on dit, tu vois ce que je veux dire, ça crève les yeux. Et là, je suis embêtée.
Mais vous savez qui me disait ça ?
Dites-moi.
Une aveugle. Une psychothérapeute
non, mais
aveugle,
sauf que moi...
et qui riait en me disant, le langage est voyant.
Mais oui, mais comment je vais faire maintenant pour vous dire au revoir ?
Mais
je vous
bien
dis salut.
Vu,
merci.
Bien
merci Elisabeth Quint. Je rappelle, 28 minutes, faut-il le rappeler, c'est sur Arte, tous les soirs du lundi au vendredi
vous
à 20h05.
Vous savez qui il y a ce soir ? Eve Ensler, les monologues du vagin, ça vous dit quelque chose ?
Oui.
Vagina, elle est là, chez nous, sur Arte ce soir.
Et dans un instant, on poursuit avec notre Heure Culture, Philippe, mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur. Votre rendez-vous du monde en culture média avec le duo Stéphane Degroote et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston-Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane Degroote.
Toi, tu dis Degroote.
Une vraie question. En France, on dit Degroote.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Bah, du coup, je...
Rien. Gilles, nous sommes le 8 janvier.
Excellent 8 janvier, je vous le souhaite.
Vous savez qu'en Belgique, on a cette tendance à dire 8 et pas 8.
8 pour dire oui ?
Non. 8 pour dire 8.
Si je vous dis vous allez bien, vous répondez pas 8.
En fait, vous comprenez rien à ce que je dis.
Mais c'est parce que c'est pas très clair. Faut dire que oui ou oui.
Et la balle magique.
Je comprends pas la question.
Au lieu de dire 8, en Belgique, on a tendance à dire 8 comme le oui.
Bah, c'est ça, comme le oui, c'est bien ce que je voulais dire. Donc on dit oui.
Vous savez qu'on va reprendre notre système depuis le début de la semaine. En ce 8 janvier, des gens sont morts.
Je ne savais pas.
Mitterrand.
Mitterrand.
Vous dites Mitterrand en France.
Non, Mitterrand, on dit Mitterrand. Enfin, moi je dis Mitterrand.
Vous aimiez Mitterrand ?
Si jamais Mitterrand ?
Je viens de vous le...
Mitterrand, c'est une bête politique extraordinaire.
En fait, ça devient chiant.
Bah oui, mais me posez pas des questions sur la politique. Ça y est, bah, je commence à décliner.
Vous démarrez par décliner.
Lundi, je suis en forme. Et arrivé à jeudi.
Ça va être chouette vendredi.
Ah bah vendredi, c'est fini.
Vous savez que Verlaine est mort aussi.
Ah bon ?
Bah oui, si je vous le dis.
Bon, ok, qu'est-ce que je...
Mais je sais pas, c'est à vous de répondre. Hein.
Bah non.
Mais si, vous dites rien.
Mais non, mais rien, Verlaine. Voilà. Il est mort. De toute façon, tout le monde savait qu'il était mort.
Oui, mais il est mort comment ?
J'en sais rien. Il est mort bourré.
Il est mort bourré ? La fameuse cuite de Verlaine. Après avoir écrit son fameux poème.
Lequel ?
Les sangles longs.
Les sangles longs. Viens la demoiselle t'étendre sur le.
T'étendre ?
T'étendre.
Tu parles de Verlaine, pas de Clara Morgan. T'étendre où ?
T'étendre.
M'étendre ? C'est une proposition. Que vous me regardez comme ça, Gilles. Ça devient hyper bizarre. Vous êtes en train de me draguer là. Hein. Ça va pas ou quoi, Gilles ? Les sangles longs des violons de l'automne. Ça vous dit rien, ça ?
Bien sûr.
J'ai l'impression de parler d'un bloc de mastic. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rimbaud ?
Il s'est passé une chose avec Rimbaud.
Il a tiré sur lui, c'était son amant.
Ils étaient amants tous les deux ?
Oui. Rimbaud a tiré sur Verlaine. Non, Verlaine a tiré sur Rimbaud.
Oui.
Et c'est pas Rimbaud qui a tiré Verlaine. À Bruxelles, il a pris 2 ans de prison pour ça.
Pour l'avoir tiré.
Pour avoir tiré sur lui avec son pistolet.
Et ben, quel jour sommes-nous ?
Mais vous posez toujours la question. Vous voulez des dates ? Vous voulez des jours ? Vous voulez quoi ? Ça vous rassure ? Alors, il y a une autre personne qui est morte ce jour. C'est Baden-Powell.
Baden-Powell, je vous laisse en parler.
Vous savez pas non plus qui est Baden-Powell.
C'est les scouts.
Lui n'est pas les scouts. Hein.
C'est l'inventeur du scoutisme. Vous avez fait du scoutisme, vous ?
J'ai fait ça un jour.
Ah oui, d'accord.
C'est peu, hein ?
Non, mais c'est peu. Regarde ce que vous auriez pu faire.
Un scout par jour, un scout toujours. Il a dit de belles phrases, Baden-Powell.
Il a dit quoi ?
Soyez prêts à vivre heureux et à mourir heureux.
Oh là 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 là. Mais allons à jeudi, en franchissant la frontière du mercredi qui va au jeudi.
Vous êtes le roi des calendriers, vous êtes un calembourier. À demain.
Les rats d'auteur avec Stéphane Degroote et Gilles Gaston-Dreyfus, vous les retrouvez demain, 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue, la lumière est revenue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec Frédéric Becbédé. Il va venir nous parler de son livre polémique aux allures de règlement de compte, mais pas seulement. L'homme qui pleure de rire, en fait, le vrai titre, c'est un emoji. Livre qui dénonce le ricanement systématique et la dictature des humoristes du matin au soir. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu dans quelques instants, évidemment. Et puis dans les indispensables, on va sortir harmonica et guitare et se préparer à aller au cinéma avec Angèle Châtelier, un biopic sur Bob Dylan, bientôt au cinéma. Et de l'humour avec un nouveau talent du stand-up qui s'appelle Laurent Sciamma. Dans son seul en scène intitulé Bonhomme, il part sur le terrain des clichés de genre. Louise Bernard en rit encore et j'ai hâte d'avoir l'avis de Becbédé.